prise de terre. Lucille Solari.
Bonjour à tous et bienvenue sur Terre. Des histoires de déchets et des histoires de décharges au menu appétissant de prise de terre ce matin. Et cela pour le meilleur et pour le pire. Alors le meilleur, on le garde évidemment pour le dessert, hein, deuxième partie d'émission. Ça se passe en Afrique avec un groupe de femmes burkinabées qui a décidé de valoriser les déchets plastiques. Elles tissent les sachets en plastique pour en faire des sacs à main. À découvrir dans le dernier carnet vert d'Isabelle Chevalet aux alentours de moins le quart. Le pire, c'est par exemple quand des déchets un peu louches sous forme de boue sont déversés dans une décharge à ciel ouvert. Alors qu'elles n'auraient jamais dû se trouver là en raison de leur toxicité possible. Alors on se dit que ça doit se passer, je sais pas moi, quelque part au fin fond de la Roumanie, quelque part en Afrique. Pas du tout, Bastien Confino.
Ben non, nous sommes en Suisse, on va aller faire un tour du côté de la décharge du Bouillet à proximité de B. Donc on va voir avec cette enquête que j'ai menée sur le terrain que même en Suisse, on n'est pas forcément exemplaire en matière de gestion des déchets.
Voyage au bout de la nuit, c'est une enquête à découvrir. Dans quelques instants, dans Prise de Terre, une enquête que vous signez donc, Bastien Confino. Et puis, à part ça, vous skiez ?
J'adore.
Vous faites de la raquette ?
Du ski.
Hors-piste.
Avec des remontées mécaniques et tout ça.
Voilà, les trucs bien, quoi. Non, mais à part ça, vous faites par exemple du hors-piste ?
Pas du tout.
C'est très bien, parce que vous savez que quand on fait du hors-piste, on peut par exemple déranger la faune sauvage, qui est particulièrement sensible en hiver. Et la problématique est accrue quand il s'agit de grands rassemblements sportifs. Exemple, juste de l'autre côté de la frontière, avec la Transjurassienne. Alors, la Transjurassienne, c'est l'une des grandes compétitions de ski de fond en Europe, que n'apprécie que très moyennement le Grand Tétra. C'est le sujet, ce matin, de Allô la Terre.
Allô la Terre !
Allô la Terre !
Allô la Terre ! Allô la Terre !
Au bout du fil ce matin, Anaïs Motet du groupe Tétra Jura. Bonjour Anaïs Motet.
Bonjour.
La Transjurassienne, la Transju, comme disent les Franc-Comtois, c'est un événement auquel justement les Jurassiens sont quand même très attachés. Et cette année, la course qui est prévue normalement le 12 février n'aura peut-être pas lieu.
Oui, effectivement, et on n'a encore pas la réponse. Hein. Le CNPN, donc le Conseil National de la Protection de la Nature, n'a encore pas donné son avis définitif pour que le préfet puisse prendre sa décision.
Alors, ce qui pose problème, c'est justement le grand tétra.
Oui, voilà, effectivement. C'est un oiseau qui est en voie de disparition.
Alors, qui est sur la liste rouge de l'UICN ?
Oui. Il y a même une volonté nationale, au niveau donc de la France, de mettre en place une stratégie nationale pour pouvoir protéger le tétra et enrayer sa disparition sur tous les massifs français où il est présent. Donc, c'est-à-dire dans les Vosges, dans le Jura, dans les Cévennes et dans les Pyrénées.
Alors, ce qui pose problème par rapport à la course, à la Transjurassienne, c'est en fait, si j'ai bien compris, le tracé de la course qui traverse une zone protégée où se trouve le grand tétra, c'est ça ?
Voilà. Alors, sur le département du Jura, il existe 4 zones naturelles protégées qu'on appelle des arrêtés préfectoraux de protection de biotopes, qui ont pour objectif de concilier la préservation du grand tétra et les activités humaines. Mmh. Donc ces zones constituent, on va dire, des zones de tranquillité pour cette espèce qui est quand même relativement fragile. Donc zone de tranquillité, ça ne veut pas dire qu'on ne peut rien faire, mais il faut que ce soit des activités qui soient raisonnées. Une course comme par exemple la Transjurassienne, qui draine plusieurs milliers de personnes.
Oui, on a 7000 skieurs, 20000 spectateurs. Beaucoup de Suisses d'ailleurs, qui viennent participer ou assister à la Transjurassienne.
Des Européens, Autrichiens, Allemands, etc. Il y a les à côté, il y a les supporters, il y a les médias. Et potentiellement, sur une journée, il peut quand même y avoir un dérangement de masse.
Alors de quel type ce dérangement ? Parce qu'on a effectivement un peu de mal à comprendre.
Pourquoi il est sensible l'hiver ? Oui. Alors comme je vous ai dit, le tétra c'est un très gros oiseau. Donc il ne va pas migrer comme l'hirondelle. Il va rester chez nous dans nos forêts. Mmh. Et sous un mètre de neige, il n'y a plus grand chose à manger à part des aiguilles de sapin. Donc c'est une alimentation qui est peu énergétique. Donc s'il est dérangé, alors peut-être pas quotidiennement, mais au moins une dizaine de fois dans l'hiver, c'est un animal sauvage, hein, il va avoir peur, il va s'envoler. Ça lui demande beaucoup d'énergie et il sera très vulnérable face à ses prédateurs, renards, martres, autour des palombes, aigles royales, etc.
Alors on imagine bien que 20-30 000 personnes qui envahissent son biotope, évidemment c'est un facteur de stress important. Cela dit, en dehors de ce type de manifestation, est-ce que la pratique du ski de fond ou la raquette par exemple a aussi un impact?
Alors non, la pratique du ski de fond, on va dire skating ou même ski sur piste, n'est pas impactante pour le grand tétras. Nous, ce qu'on assiste depuis le début des années 2000, c'est au développement de la raquette et du ski de randonnée nordique. Le souci, c'est qu'avec la raquette ou le ski de randonnée nordique, bah, le but, c'est, on va dire, de faire sa trace, d'aller dans les endroits sauvages. Et donc là, on peut passer à droite, à gauche de son habitat. Et là, le tétras, il arrive plus du tout à y intégrer. Et c'est là où vraiment où il y a un impact négatif sur son état de santé, on va dire.
Alors, possible, c'est pas encore redit, hein, mais cette possible suppression de la course de la Transjurassienne, évidemment, fait polémique hein, dans la région. Oui, oui. Et vos détracteurs affirment que finalement, les écologistes en font trop et que les intérêts du Grand Tétras vont contre les intérêts économiques de la région. Qu'en pensez-vous?
Alors, moi, je pense que on peut tout à fait mener l'un avec l'autre. On a travaillé avec le monde de la course d'orientation, justement, sur le massif jurassien, où on a défini des secteurs qui pouvaient être utilisés par les pratiquants de course d'orientation, des secteurs où là, il y avait des restrictions de date, donc notamment l'hiver et au printemps, parce que le tétras, il est sensible l'hiver, mais également au printemps, au niveau de la reproduction, des nichés, etc. Mmh. Et des secteurs, là, où il n'y avait pas du tout de pratique de course d'orientation. Donc c'est un travail, on va dire, de coopération, qui s'est très bien mené. Après, je pense, d'un point de vue aussi économique, c'est souvent qu'on nous envie le patrimoine naturel du Haut-Jura et qui attire quand même beaucoup de personnes.
Donc il s'agit de le préserver, finalement.
Voilà, oui.
Merci beaucoup à Anaïs Motet d'avoir été avec nous ce matin dans Prise de Terre. Pour tous ceux qui aimeraient avoir plus d'informations sur le Grand Tétras, bien je vous renvoie à votre site internet, il est en lien sur notre propre site.
RSR La Première, Prise de Terre.
Bas sur la terre noire, celui qui pisse le plus loin, c'est à se crever les yeux. Oh compagnon, on n'en voit pas la fin. Et avant de monter au ciel, je te montre mes dents. Dans l'horizon, oh compagnon, tu es bien bon con. Oh compagnon, et ta mère c'est rien qu'une pute. Silence à l'arrière et à tous les coins du globe, j'irai en riant parler au cochon. On mangera comme des lardes et advienne que pourra avant la résurrection. On fera des embardés au compadre encerclé d'horizon. Pour de bon, oh compadre, avec petit Jean et les autres, oh compagnon, bien au-dessus des ponts, bien au-dessus du pont.
Oh compagnon, c'était Raphaël.
Attention, ça glisse un peu. C'est légèrement verglacé.
C'est des bottes FDT, c'était pas terrible.
Là, Anne Billman, on est sur un petit chemin pédestre qui descend à proximité de la décharge, c'est ça?
Oui, absolument. Oui, c'est exactement ça. On a la décharge à notre droite avec les zones de dépôt blanches.
Alors, ces zones de dépôt blanches, en fait, c'est a priori ce qui recouvre les déchets laissés ici par la société Petros Vibri.
Apparemment, oui. C'est-à-dire qu'il y a une zone de déchets blancs qui est là depuis plusieurs mois et qui a été déposée après la période de déchets, de dépôt des déchets de Petros Vibri.
Alors, on va s'approcher un petit peu pour voir la structure de cette décharge d'un peu plus près.
Très sympa comme but de balade pour un samedi matin, une décharge. Cela dit, restez avec nous parce que vous allez voir, c'est très très instructif. Bastien Confineau, on vient d'entendre le nom d'une entreprise, Petros Vibri. C'est marrant, ça me rappelle quelque chose, dit dedans.
Mais oui, parce qu'on en avait parlé en fait il y a quelques semaines à propos
Absolument.
Du tight gas, ce gaz découvert sous le Léman et dont la technique d'extraction, la fracturation hydraulique fait quand même polémique un petit peu partout. Alors, ici, déposer des déchets de forage sur une décharge, a priori rien d'alarmant, sauf qu'en juillet 2010, Anne Billman, conseillère communale du groupe Ouverture AB, qui n'était pas au courant de ce dépôt de déchets sur la décharge du Bouillet, remarque quelque chose d'un petit peu bizarre.
Oui, j'étais alertée par un groupe de jeunes qui s'étaient baignés, c'était un été assez chaud, qui s'étaient baignés à la Grillonne, c'est une rivière très agréable, très fraîche en été, et qui ont constaté une odeur extrêmement désagréable et des plaques de mousse en dessous de chaque petite cascade qui freine le courant de la rivière. Plaques de mousse et odeurs qui étaient totalement inhabituelles dans cette rivière qui est normalement très très propre.
C'était quoi comme type d'odeur ?
Un type d'odeur pourrie comme ça, et puis des plaques de mousse blond-vert qui stagnaient et qui étaient extrêmement compactes. Ensuite, j'ai été contactée par une amie qui m'a dit qu'elle avait une information selon laquelle des bouts du forage de Noville auraient pu être déposés dans la décharge inerte du Bouillet. Alors, j'étais tout à fait surprise de cette information à vérifier et j'ai contacté le président de la Fondation des Mines de Sel, François Cadoche, et je lui ai demandé s'il voulait bien enquêter auprès du directeur des Mines et Salines, ce qu'il a fait. C'est là où nous avons eu la surprise d'apprendre qu'effectivement, il y avait eu des bouts du forage de Noville qui avaient été déposés au Bouillet.
Vous parliez d'odeur dans la rivière, est-ce qu'on a pu remonter à ces bouts ?
Absolument, c'est-à-dire que c'était une des premières remarques que le directeur des Mines et Salines a faites à François Cadoche, à savoir que le restaurateur de la zone du Bouillet a alerté la direction des Mines et Salines en disant que les bouts déposés dégageaient une odeur extrêmement désagréable et que pour ses clients et pour la réputation de son bistrot, ça n'était pas possible de continuer à décharger ces bouts. Et c'est la raison pour laquelle, semble-t-il, les versements de boues du forage de Noville ont été interrompus sur le site du Bouillet.
On se dit que même si ça a été versé ici, c'est peu probable que ça ait passé dans la rivière, non ?
Oui, mais il peut y avoir des infiltrations. La rivière, bien sûr, elle passe au-delà de la petite digue, mais si c'était du matériel liquide et non pas solide, eh bien, on peut parfaitement imaginer que ça se soit infiltré, que ça ait atteint la rivière par-dessous. Or, ces boues avaient précisément un aspect liquide et non pas solide, comme cela aurait dû être le cas.
On peut aller voir un peu plus loin, justement. Donc là, il y a la petite colline. Les boues ont été déversées ici. Un petit peu de neige. Et s'il y a beaucoup de pluie ou comme ça, on peut quand même imaginer que ça contourne la colline et que ça se propage dans la rivière, non ? Même s'il y a un petit muret, mais enfin, il n'est pas très haut, ce muret.
Au moment où ils ont constaté ce déversement de boue liquide, ils ont rehaussé le petit muret, ou la digue, si vous voulez, qui est là. Mais au départ, cette digue était moins haute. Et puis, de l'eau, si c'est liquide, passe sous la digue.
Alors, des odeurs bizarres, une mousse, des odeurs de pourri, des boues liquides. Qu'est-ce que c'est que ces boues, Bastien Confineau ? Alors, elles proviennent du forage de Noville, ça, on a bien compris. Mais qu'est-ce que c'est ? À quoi elles servent ?
En fait, quand on fait un forage, quand vous faites un trou, vous avez besoin d'utiliser des boues qui vont permettre, d'une part, de maintenir le forage ouvert, de créer une pression sur les parois, qui vont permettre de refroidir la tête de forage, de la faire tourner. Et donc, pour ça, on va utiliser ces boues. C'est en quelque sorte le sang du forage. Alors maintenant, elles sont essentielles, oui, et leur composition est assez subtile. Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans ?
Eh oui, c'est ce qu'on voudrait savoir.
Exactement. On écoute Félix Schmitt, directeur de la section environnement et géologie du bureau d'ingénieurs CSD Conseil. C'est eux qui étaient en charge du suivi environnemental de ce forage de Noville.
C'est de l'eau, essentiellement. C'est de la poussière de roche, donc du matériel minéral. C'est des argiles, on parle de bentonite ou d'autres argiles de ce genre. Et puis, ils ajoutent différents produits, en général, sans aucune propriété polluante particulière. C'est soit du sel de cuisine, soit plutôt des polymères. C'est la meilleure image qu'on peut donner à ça, c'est de la purée de patate, quoi. C'est un produit comme ça qui permet d'avoir une certaine consistance à la boue en petite quantité. C'est vraiment la cuisine. On met un peu de ceci, un peu de cela, jusqu'à ce qu'on ait les bons paramètres de densité, de viscosité. Et ça, c'est le secret de l'entreprise. Évidemment, ils ne sont pas très friands non plus de nous expliquer leur secret. Il faut se rendre compte que les entreprises qui travaillent sur un tel site sont des entreprises internationales qui travaillent sur toute la planète, mais jamais en Suisse. Donc, eux, les législations suisses, les exigences suisses, ils s'y connaissent rien et ça ne les intéresse pas le moins du monde. Donc, eux, ils font leur forage le mieux possible pour arriver à la cible et ils sortent tout ce qui doit être sorti, puis à nous de nous débrouiller avec ça.
Donc, si je comprends bien, Bastien, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes, d'après Félix Smith, sauf que, si j'ai bien compris, c'est une société privée et non pas une société publique, c'est-à-dire l'État, qui s'occupe du suivi environnemental. Ça, c'est quand même étrange.
C'est surprenant. Ah ben moi, oui. Ça m'a beaucoup surpris aussi. C'est en effet la société qui fait le forage qui va mandater et payer un bureau d'ingénieurs pour vérifier que tout est fait dans les règles, en tout cas sur le plan environnemental.
Ouais, c'est ce qui s'appelle être juge et partie. Hein.
Exactement. Après, bon, le canton va quand même faire des contrôles, mais des contrôles en fonction des indications fournies par le bureau d'ingénieurs.
D'accord.
Or, dans le cas présent, justement, les indications étaient un petit peu floues. On a les quantités de certains produits qui ont été mis dedans, je le sais, puisque j'ai pu me procurer les documents techniques de ces produits fournis par la société Baker Hughes, donc le fournisseur de ces boues dans le cas du forage de Neuville. Alors, Baker Hughes, c'est une société texane, et peut-être qu'on n'a pas la même sensibilité à l'environnement au Texas
qu'en Suisse,
parce que quand je regarde les documents, eh ben, on n'a quasiment aucune indication sur le type de produits chimiques qui sont utilisés dans ces boues. En revanche, quand même, c'est marqué qu'il ne faut pas, on voit ici, inhaler, ingérer, il faut éviter le contact avec la peau, etc. Alors, pour du sucre et de la purée de patates, je suis quand même un petit peu surpris. Réaction de Félix Schmitt, qui était en charge du suivi environnemental de ce forage.
Ouais, je ne sais pas à quel produit vous faites référence, mais dans l'ensemble...
C'est le mille-pack, en l'occurrence, qu'il faut manipuler avec des gants, des lunettes, un masque.
Oui. Bon, comme énormément de produits sur le marché et énormément de modes d'emploi américains, ils ont tendance quand même à mettre ce genre de remarques sur n'importe quel produit, parce qu'il y a beaucoup de produits dans le monde qu'il n'est pas bon de manger, d'inhaler en grande quantité, même si c'est pas en tant que tel toxique. Et les Américains ont tendance à faire un peu d'emphase là-dessus. Donc, je crois que ça suffit pas pour définir une toxicité aiguë.
Quand on regarde dans les forages justement américains, pour faire les forages, il y a un certain nombre de produits assez toxiques, comme du formaldéhyde ou comme ça, des antioxydants qui sont utilisés à l'intérieur des puits. Est-ce que là aussi, il y a ce type de produits qui sont mélangés à ces fameux produits qui ont été fournis par Baker Hughes ?
Semble-t-il que ce n'était pas le cas. Enfin non, comme je dis, les produits qui ont été utilisés étaient tous neutres en tant que tels ou des argiles qu'on trouve dans la nature.
Et donc là, vous ne savez pas si, par exemple, du formaldéhyde a été utilisé ou pas ?
Aucune idée.
Et ce n'est pas un contrôle que vous auriez pu faire, puisqu'on voit qu'il y a eu justement des pollutions ailleurs avec du formaldéhyde à cause de forage. Ce n'était pas intéressant de faire cette étude-là ?
Ce n'est pas un mot qui a été utilisé, ni on a parlé de bétonnage, mais je n'ai pas entendu parler de formaldéhyde.
Et puis, quand on fore à très grande profondeur, il y a un certain nombre de bactéries aussi qui peuvent être présentes. Je pense notamment à la desulfo-vibrio desulfuricane qui produisent du sulfure de dihydrogène. Ça, c'est très toxique. Et donc, ça paraît être une nécessité de mettre des biocides pour éliminer ces bactéries et éviter qu'elles remontent à la surface et provoquent un certain nombre de nuisances. Ça, vous savez s'il y a des choses comme ça qui ont été trouvées et s'il y a des biocides qui ont été utilisés justement pour éviter ces problèmes ?
Non, je ne sais pas. Je ne connais pas cette question de ces micro-organismes. Par contre, le thème du H2S, de l'hydrogène sulfureux, est évidemment un des thèmes centrales de toute la sécurité du forage. Le risque de trouver ces H2S est très faible. Mais ça arrive de temps en temps sur un forage, je ne sais pas, sur 1000 ou sur 2000, qu'on trouve de ce gaz H2S qui est formé par des bactéries, etc.
Ah Bastien, on sent bien que Félix Smith est quand même un petit peu gêné aux entournures hein, sur la question de ce qu'on pourrait bien trouver comme produit toxique dans ces boues. Cela dit, il n'y a aucune preuve. En fait, on n'est pas certain de ce qui se trouve réellement dans ces déchets.
Ben non, c'est un peu le problème, puisqu'il n'y a pas eu d'analyse derrière et que c'est quand même un secret industriel, on va dire, de la part de Baker Hughes.
Oui, on se cache un petit peu derrière le petit doigt, là, hein, quand même.
Un petit peu, et donc on ne sait pas vraiment. Alors, vu que je n'avais pas de réponse satisfaisante de la part du bureau chargé du suivi environnemental, j'ai contacté André Picot. André Picot, il est chimiste, directeur de recherche honoraire au CNRS et président de l'association Toxicologie Chimie. Et je lui ai demandé qu'est-ce qu'on utilise généralement comme produit dans les forages à grande profondeur.
On est obligé, traversant très souvent, puisque vous êtes à 2000-3000 mètres de profondeur, vous traversez des couches qui peuvent contenir une flore, une faune microbienne importante, et donc faudra essayer de combattre tous ces organismes vivants, donc il faudra mettre des biocides, et ça, c'est obligatoire.
Et vous allez voir, on n'est pas au bout de nos surprises. Biocides obligatoires, ce ne sont pas les seuls produits chimiques utilisés. On verra ça juste après Bruce Springsteen. C'est Prise de Terre sur Radio Suisse Romande, la première.
Hey little girl, is your daddy home? Go and leave you all alone. I got a bad desire. Oh, I'm on fire. Tell me now, baby, is it good to you? And can it do to you the things that I do? Oh, no. I can take you high. It's like someone took a knife, baby, edgy and dull, and cut a six-inch valley through the middle of my skull. At night I wake up with the sheets soaking wet and a freight train running through the middle of my head. Only you can cool my desire. Ooh, I'm on fire.
Petit bijou ciselé au cœur de l'âme américaine du boss. I'm on fire, c'était Bruce Springsteen.
Prise de terre sur la première.
Voyage au bout de la nuit, c'est l'enquête que vous signez ce matin pour Prise de terre, Bastien Confineau. Juste une petite précision parce que on vous a entendu tout à l'heure dire bon ben voilà, il n'y a pas eu d'analyse de fait sur ces boues. On va préciser, on n'a pas fait des analyses sur certains produits, en particulier ceux qui peuvent poser problème.
Hein. Voilà, il y a des produits qui ont été analysés et d'autres pas. Et voilà, c'est un petit peu le problème de ces boues.
Et on va y revenir. Donc on vient de voir avec André Picot, qui est chimiste, que l'ajout de produits chimiques lors d'un forage à grande profondeur, ben ça fait aucun doute. Bon, le doute, il est sur la nature de ces produits et leur potentielle dangerosité, en fait. Hein.
Oui, Lucille. Or, comme personne en Suisse ne semble avoir de réponse, je vous propose qu'on retrouve André Picot, qui nous explique de manière générale quels types de produits sont utilisés dans les forages à grande profondeur.
Alors, il y a de tout. Il y a des produits qui sont neutres, il y a des produits qui sont corrosifs. Si on passe, par exemple, dans des couches granitiques, etc., calcaire, on est obligé d'utiliser des acides, de l'acide chlorhydrique. Quelquefois, on est obligé d'utiliser des acides beaucoup plus puissants et beaucoup plus dangereux, comme par exemple l'acide fluorhydrique, qui, lui, est vraiment un élément extrêmement corrosif, capable de dissoudre la silice. Et puis, après, il faut neutraliser tout ça. Donc, on va utiliser des bases fortes, de la soude, de la potasse, du carbonate de sodium. Donc, ça, c'est des produits qui rentrent dans la catégorie des agressifs, si vous voulez, hein, qu'on appelle des corrosifs, qui sont capables d'attaquer la peau, les muqueuses, etc. Et si vous n'avez pas la composition au départ, on ne peut rien dire.
Alors, ce qu'on récupère, justement, ces bouts de forage et ces cuttings, donc la roche arrachée, finalement, pendant le forage, ce qu'on récupère, on va devoir le stocker quelque part. En l'occurrence, une partie de ces déchets, ici, du forage de Noville, ont été stockés dans une décharge inerte, à ciel ouvert. On peut marcher à côté, on passe à 50 cm de ces restes de boue. Est-ce que c'est bien prudent de les mettre, comme ça, à disposition de n'importe qui ?
Ah ben écoutez, je pense que les agences qui ont en charge le contrôle de ces décharges et le contrôle des boues ont dû, je l'espère, faire des analyses préalables, savoir si dans ces boues, il n'y aurait pas, par exemple, des taux importants d'arsenic, de plomb, de mercure, de cadmium, d'antimoine, tout ce que vous voulez.
Nous aussi, hein, à l'image d'André Picot, on espère que tous ces produits ont été testés,
alors,
Bastien.
Oui, c'est valable pour un certain nombre de produits. Par contre, d'autres, comme le thallium ou la silice cristalline en particules fines, qui sont très dangereux pour la santé, n'ont fait l'objet d'aucune vérification.
Et là, l'État ne peut pas intervenir ?
Alors si, bien sûr, ils ont suivi la chose, mais ça n'a pas été simple du tout, comme nous l'explique Marc Handlauer, responsable de la gestion des déchets au service des eaux, sols et assainissement du canton de Vaud.
Eh bien, ça s'est passé de manière assez difficile, dans le sens où le rapport d'impact qui nous avait été soumis était relativement succinct par rapport à la gestion de ces bouts de forage. Il dit simplement en une ligne, l'entreprise en charge du forage est responsable de la gestion des bouts, de leur production à leur élimination. Donc on est parti sur une relative confiance en se disant que ces entreprises maîtrisaient totalement leur sujet, étant des foreurs professionnels.
C'est un rapport qui fait quoi, 150 pages, il y a une ligne sur cette gestion des déchets.
En fait, on a été rapidement confronté à la réalité, puisqu'à un certain moment, l'entreprise en charge de la surveillance environnementale de ce forage, qui est une entreprise sérieuse, dans laquelle nous avons pleinement confiance, s'est retrouvée devant des produits inclassables en fonction de la législation suisse actuellement applicable. On a trouvé la solution avec une certaine parenté entre ces produits assez fortement salés et la production des mines de sel du Bouillet, qui font de l'extraction de sel gem à partir de la roche mère. Et on a pu trouver une solution entre guillemets de secours avec un entreposage conjoint avec ces déchets d'extraction du sel et ces boues salines en provenance de ces forages.
Dans un rapport qui a été publié il y a quelques années, quand on parle des boues de forage, donc un forage classique comme celui qui a été fait à Noville, on parle aussi d'un certain nombre de produits irritants, de produits nocifs, produits sensibilisants, produits corrosifs. Tous ces produits-là ont sans doute aussi été utilisés dans ce forage de Noville.
Alors c'est là-dessus qu'on aimerait avoir beaucoup plus de précisions. Dans les documents qui nous avaient été soumis, on nous parlait effectivement d'eau, de sel en différentes proportions, et puis de polymères. Et ces polymères, jusqu'à présent, n'ont fait l'objet que d'une présentation de fiches produits qui nous indique dans les grandes lignes si c'est un produit qui peut être toxique ou pas, qui nous dit s'il est irritant, qui nous indique quelques précautions de manipulation, mais qui ne nous dévoile pas la composition chimique exacte. Et c'est là que le bât blesse et que nous nous trouvons devant des difficultés. Et il est clair qu'à partir du moment où on nous présentera une prochaine fois, ne serait-ce qu'un forage classique faisant intervenir ces adjuvants, nous allons demander autre chose qu'une fiche produit, mais une analyse chimique en bonne et due forme.
Tous ces déchets sont encore à la décharge du Bouillet ?
Tout à fait, ils sont entreposés et actuellement, ils n'ont pas posé de problème environnemental particulier.
Aujourd'hui, sachant que justement, il peut y avoir des produits nocifs, des biocides, des antioxydants, voire même des produits cancérigènes dans ces bouts de forage, est-ce que ça ne serait pas prudent d'interdire l'accès à cette décharge du bouillage? J'ai été me balader sur place, on est à 50 cm de ces bouts, quoi. Elles sont là, les enfants peuvent aller jouer dessus.
Non, alors effectivement, nous avons maintenant de nouveau un cycle d'analyse qui va être entrepris sur ces produits pour confirmer ou infirmer la présence d'autres produits que ceux qu'on nous a clairement annoncés. Pour l'instant, nous n'avons pas de suspicion. Je veux dire, il faut quand même compter sur une honnêteté des gens, et notamment l'honnêteté du bureau d'ingénieurs qui a accompagné ce processus. Il y a eu des analyses qui ont été faites sur différents lots de ces bouts, qui ont montré l'absence notamment de métaux lourds, et qui n'ont pas détecté d'autres produits organiques que ces additifs dont on nous a donné les fiches produits.
Parce qu'aussi, on trouve ce qu'on cherche, c'est-à-dire que le bureau d'ingénieurs, justement, qui a fait le suivi environnemental, n'avait pas l'air d'avoir cherché un certain nombre de ces produits.
Oui, néanmoins, ces produits que vous décrivez ont des caractéristiques, notamment au niveau de l'odeur, de la couleur. Enfin, il y a différents indices qui auraient pu nous conduire sur une piste en disant « mais il n'y a pas que ce qu'on nous annonce » et pour l'instant, ce n'est pas le cas.
Eh, confiance, chantait K à Mowgli. Bon, on peut quand même se demander, Bastien, si la confiance peut être vraiment le seul élément nécessaire et suffisant pour un suivi environnemental qui implique des produits potentiellement aussi délicat.
Oui, ça laisse quand même un petit peu perplexe. Je vais vous donner un exemple. D'un côté, Mark Andlauer du canton me confirme que ces fameux déchets, ou en tout cas une partie, faut quand même préciser que tout n'a pas été mis au bouillet, mais ces déchets sont toujours dans cette décharge du bouillet. Alors que, quand j'ai été voir Werner Leu, le géologue conseil de Petros Vubry, voici ce qu'il m'a expliqué.
On voulait les déposer à bouillet, mais on n'a pas vraiment bien géré la liquidité. Alors c'était plus liquide que prévu, ça veut dire qu'il y avait quelque chose comme des instabilités où ça commençait à bouger en principe dans une direction qu'on ne voulait pas. Et finalement, on a dû enlever ces matériaux-là et restabiliser un peu les endroits pour ça. Mais ça, c'est tout remis en état.
Donc ils ont été retirés de là-bas.
Ils ont été retirés, c'est clair, c'était très coûteux. On avait des transports supplémentaires pour rien. Ils sont maintenant dans une autre déponie qui est faite pour ça.
Voilà, on est quand même. Voilà, c'est un peu un constat de flagrant délit de mauvaise foi, parce que Bastien, en fait, ces déchets, ils sont toujours là.
Alors, en tout cas, c'est ce que dit le canton. Ce qui est vrai, quand même, il faut le préciser, c'est que d'autres lots, les deuxièmes, troisièmes lots, ont été déposés ailleurs, mais le premier lot de 677 tonnes est toujours là, en tout cas, selon le canton.
Et la décharge n'est toujours pas clôturée.
Non, il y a même ce fameux chemin pédestre qui passe juste à côté de la décharge. Mais quand même, l'État réfléchit éventuellement à confiner ces déchets pour éviter que n'importe qui puisse y accéder. Bon, maintenant, peut-être que ces bouts n'ont rien de nocif et que les fameuses mousses qu'on a retrouvées sur la rivière n'ont rien à voir avec ça. Là, des nouvelles analyses sont en cours et on en saura plus dans quelques temps.
Oui, parce que finalement, ce qui est étonnant, ce qui nous a un petit peu frappé, vous et moi, dans ce dossier, c'est que on a en Suisse une loi qui finalement est peu regardante
au
niveau des contrôles.
C'est aussi ce qui m'a surpris, c'est Lefebvre en fait qui définit ça. Et sur cette question des déchets, c'est assez clair. Si on prend l'article 33 de l'ordonnance sur les déchets, c'est au détenteur des déchets de prouver que ses propres déchets sont admissibles dans la décharge où il veut les mettre. Donc l'architecte ou le foreur, dans notre cas, va faire appel à des sociétés qui ont une certaine crédibilité, qui répondent par exemple aux normes ISO. Ces sociétés vont analyser les déchets, faire un rapport et du coup obtenir l'autorisation de la mise en décharge.
Le côté un peu juge et partie dont on parlait tout à l'heure.
Exactement. Alors du coup, on peut quand même se poser la question, même s'il y a des contrôles inopinés de l'État, est-ce que Lefebvre ne devrait pas mettre un petit peu plus de rigueur dans tous ces contrôles pour quand même, in fine, assurer la sécurité de l'environnement et des populations?
Bon, ce qui est sûr, c'est que votre enquête a eu un effet bénéfique, puisque je crois, voilà, il va y avoir maintenant des contrôles, on va analyser un peu plus précisément ces déchets. Vous suivez, ça serait intéressant même de savoir les résultats, vous suivez le dossier pour nous.
Je vais suivre ça pour vous. Et puis, juste, j'aimerais encore remercier Françoise Lienhardt, qui a suivi cette affaire, elle, depuis de nombreux mois, et qui m'a beaucoup aidé dans cette enquête.
Voilà, cette enquête vous a interpellé. Faites-nous part de vos remarques sur notre site, notre page internet prisedeterre.rsr.ch. Nous sommes curieux de savoir ce que cette enquête a suscité chez vous comme réaction et comme réflexion. direction. On a vu le pire, ça se passe en Suisse, on va vers le meilleur maintenant. C'est en Afrique, ce sera le carnet vert d'Isabelle Chevalet juste après ça.
Dans mon jardin, il y a la poste, il y a mes copains, la caissière du Félix Potin. Dans mon jardin, il y a mon chien, il y a sa niche, il y a son vin. Dans mon jardin, il y a les julots, des panoyaux, il y a des usines, il y a des poubelles, il y a les escrocs de la rue de Courcelles. Dans mon jardin, il y a des touristes, il y a des martiens, des coccinelles et des cafards, des porcs et des cages à lapins. Moi, je voudrais bien, un beau matin, qu'il y ait une fleur dans mon jardin. Une fleur dans mon jardin. Dans mon jardin, il y a des avions, il y a des trains, des contrôleurs dans le souterrain, des autoroutes et des chemins, il y a la bécane de mon frangin. Dans mon jardin, moi je voudrais bien qu'il y ait une fleur dans mon jardin. Une fleur dans mon jardin.
Les fleurs des champs, les fleurs des champs.
Dans mon jardin, il y a des déserts sans lendemain. Il y a des vieillards, il y a des gamins. Il y a des grandes forêts de sapins. Il y a de la houle et du crachin. Dans mon jardin, il y a des millions d'hommes en chaleur. Il y a des jolies filles qui pleurent dans mon jardin. Un beau matin,
le pissenlit,
y avait une fleur dans mon jardin.
Les petites fleurs de la pâquerette,
y avait une fleur dans mon jardin. Y avait une fleur dans mon jardin.
Ta petite bouche, petite fleur, tu l'ouvres comme petite étincelle. Elle s'ouvre, ta petite bouche, petite fleur, elle est belle. Tu regardes le soleil.
Dans mon jardin, les concis ramassent à l'appel. Y a plus de place dans ma poubelle. Il y a de tout, il n'y a de rien. Dans mon jardin, y a des dortoirs, y a des crachoirs. Y a même eu des fours crématoires. Y a des couloirs pleins de portraits des gens qu'on n'excusera jamais. Dans mon jardin, il y a la mer là-bas au loin.
Il y en a des choses dans le jardin de Manu Chao et dans notre jardin à nous. Il y a parfois du poil à gratter, ça c'était tout à l'heure. Et puis il y a aussi de bonnes nouvelles, par exemple des femmes pleines de ressources et d'idées pour transformer une décharge en jardin. C'est le dernier numéro des Carnets Verts d'Isabelle Chevalet.
Nous, on a appelé les membres du bureau de notre association.
D'accord.
Voilà.
Donc, je vais vous faire une présentation de l'équipe. Alors, madame Isabelle Chevalet, conseillère nationale du canton de Vaud.
De la Suisse, en
de fait. La Suisse, hein,
voilà. Enchantée.
Enchantée.
Enchantée. Peut-être qu'on va aller ensemble au lieu du centre même. Mm-hmm. Ici, ça, c'est la boutique.
Oui, oui. Mais après, on revient à la boutique.
Oui, oui, après, on va.
Parce aller. Que j'ai une valise vide. Ah. Mais j'aimerais bien la remplir. Non, parce que alors, franchement, là, ça va être dur de nous faire partir les mains vides. Hein. Ouais, ouais, ouais.
Isabelle Chevalet, conseillère de la Suisse. En effet, Isabelle Chevalet, on va le rappeler, vous avez été élue sous la coupole, c'était en novembre dernier. Alors comme ça, depuis que vous êtes conseillère nationale, vous voilà porteuse de valises.
Oui, mais alors attention, il faut tout de suite rassurer les auditeurs, pas porteuses de valises de billets, mais porteuses de valises de sacs qui ont été faits à partir des plastiques au Burkina Faso. Donc quand nous, on descend les sacs plastiques en Afrique, eh bien moi, je les remonte, transformés sous forme de sacs dans ma valise.
Ce sera justement le sujet au centre de ce dernier carnet vert que vous nous proposez, Isabelle, dans Prise de Terre. Et vous teniez précisément à nous présenter le travail de cette association de femmes burkinabées.
Oui, c'est une association qui s'appelle le Groupe d'action des femmes pour la relance économique du Wet. Le Wet, c'est la région de Bobo-Dioulasso, au Burkina Faso. Donc Bobo, c'est à l'ouest de Ouagadougou, on est proche de la frontière de Côte d'Ivoire et c'est la capitale économique du Burkina.
Alors, vous parlez des sacs plastiques, il faut rappeler que la gestion des plastiques, de manière générale, est au Burkina, comme en Afrique d'ailleurs, un gros problème.
Oui, c'est un gros problème. Le problème, c'est ces sachets en plastique. J'en ai un dans la main. Ils sont très fins. On entend tout de suite au bruit que c'est vraiment très, très fin. Alors, le Rwanda les a interdits. D'ailleurs, si vous entrez au Rwanda, on vous ouvre la valise. Et si vous avez eu le malheur de mettre vos chaussures sales dans un sac plastique, eh bien, on vous l'enlève. C'est vraiment, ils ont fait la guerre aux sachets. Le seul moyen de nettoyer ce pays a été d'interdire complètement l'entrée de ces sachets. Mais le Rwanda n'est pas le seul pays. Le Kenya l'a aussi fait, l'île Maurice, par exemple.
L'autre solution, alors, c'est précisément de ça dont on va parler aujourd'hui, c'est de recycler ces sacs, d'en faire des accessoires de mode, finalement.
Voilà, c'est un peu la mode Bobo du Lasso, mais aussi la mode Bobo européenne, si on veut bien. Et ces femmes les collectent, les nettoient, les découpent en morceaux et les tissent.
Voilà, là nous étions dans les locaux de l'association. On va maintenant visiter l'usine.
Oh, l'usine, c'est un grand mot, c'est plutôt un hangar. Et c'est sa présidente, la présidente de l'association, Madame Christiane Lamidzana-Gouba, qui nous le fait visiter.
Voilà, on marche sur les pavés. On a un petit chemin fait en pavé, recyclé. Voilà.
Donc un sac comme ça,
c'est des sacs, c'est des sacs quoi de riz ou c'est des sacs?
C'est des sachets là qui sont.
Là-dedans il y a des sachets, mais ça c'est quoi comme sac?
C'est un sac de 100 kilos. Bon, si on les lave, comme ça peut faire 5, 7 kilos. Mais si on les lave, ça ne vaut plus. Parce qu'il y a la terre dedans.
Ah bah évidemment.
Voilà, et puis aussi, si on lave, il y a au moins beaucoup de déchirures qu'on trouve.
On est donc dans la banlieue de Bobo. Qu'est-ce qu'on voit autour de nous? Décrivez un petit peu pour les gens qui nous écoutent.
Voilà, nous sommes ici dans le centre de recyclage des sachets plastiques. Nous avons d'abord les femmes qui amènent des sachets dans des sacs. Et nous les payons, et les femmes qui trient, les bons sachets on les lave, les mauvais aussi on les lave, mais les bons sachets partent au tissage, il y a des gens qui vont découper pour les tisser. Ceux qui sont déchirés partent à la fonte pour faire des tabourets, des bains et des pavés.
Et avec un sac, vous arrivez à faire...
Ça dépend. Un sac, on peut faire au moins deux sacs. Mais des fois, c'est pas tout le temps qu'on peut. Voilà, parce qu'il y a des sacs déchirés. Il est tri. Voilà.
D'accord.
C'est tri.
Ce que je trouve bien, c'est que vous avez réussi à dire ce qui est bon, on le garde et on le tisse. Et puis ce qui est moins bon, on le garde aussi.
Voilà.
On fait autre chose.
Oui, on égale. Ah.
Isabelle Chevalet, ces sacs plastiques, ils proviennent d'où? Parce que on entend parler de sacs de riz, il y a ces sachets noirs dont vous nous parliez tout à l'heure. Il y a quelqu'un pour les collecter, ces sacs?
Alors, il y a les femmes, il y a des enfants qui les collectent. En fait, ils mettent tout ça dans un grand sac de riz et ils sont payés par sac de riz.
D'accord, donc c'est collecté dans la ville, quoi?
C'est collecté dans la ville, un petit peu partout. Il n'y a pas une organisation très stricte par rapport à ça. Tout le monde sait que s'il amène son sac au centre, il sera payé tant de francs le sac.
Ce qui, évidemment, motive la population à aller récolter ces sacs qu'on peut trouver un peu partout en ville, comme vous nous le disiez tout à l'heure. Il y a beaucoup de femmes qui travaillent dans ce lieu de tissage.
Alors, dans toute la chaîne, entre la récolte, le lavage, le découpage, le filage, le tissage, ça fait à peu près une centaine de femmes, quand même.
J'ai quand même du mal à imaginer, Isabelle, comment on peut tisser du plastique, en particulier ce plastique aussi fin.
Alors, en fait, ça se fait sur des métiers à tisser tout à fait normaux. Il y a le plastique est découpé en bandelettes, noué ensemble pour faire un long fil. Et puis, la base, c'est du coton du Burkina Faso.
Voilà, les fils, c'est les fils de base. Pour pouvoir avoir que ce soit solide, nous utilisons le fil de coton qu'on teint pour faire pour tisser.
D'accord, donc la trame de base, c'est des fils de coton.
Coton.
Et puis après, passe.
Passe les sachets.
D'accord. Voilà. On va s'approcher peut-être d'une des tisseuses.
Ouais.
Que vous allez nous expliquer un peu comment ça se passe. Donc là, il y a deux métiers à tisser.
Oui, nous avons beaucoup. Nous avons jusqu'à 12 métiers à tisser. Et s'il n'y a pas de clients, donc si on n'a pas des achats, on ne peut pas faire travailler tout le monde parce qu'elles sont payées à leur tâche. Donc si on fait travailler 95 personnes ici, et tant qu'on n'a pas de clients, on n'a pas d'acheteurs, où on doit trouver l'argent pour les payer. C'est ce qui fait que chaque tisseuse fait des modèles.
Il y a des commandes, des fois.
Voilà, des commandes. Donc, avec selon les commandes que nous faisons tisser, elle, tu peux la demander, je ne sais pas quelle couleur on a dit de faire. Elle doit faire quelle couleur.
Quel modèle vous êtes en train de faire alors sur ce métier à tisser?
Dites-moi.
Je n'ai pas encore commencé.
Quel est votre nom?
Odette.
Odette.
Oui. Je n'ai pas encore commencé.
Vous n'avez pas encore commencé, oui.
Mais je vais faire la couleur bleue.
Bleu,
oui.
Ah voilà, oui, on voit les sachets bleus derrière vous qui sont en train d'être découpés. Et là, vous êtes en train de préparer le départ.
Oui.
D'accord.
Isabelle Chevalet, comment est-ce qu'elles sont rémunérées, ces femmes? Parce que là, on entend la présidente, hein, Madame Lamizana Gouba, on a un peu l'impression qu'elle fait visiter son entreprise. C'est pas une entreprise, c'est bien une association.
C'est bien une association qui a un bureau. D'ailleurs, à l'entrée, vous avez entendu hein, du reportage, on était reçu par tout le bureau de l'association. Donc, c'est bien une association. Et en fait, elles sont payées à la tâche. C'est-à-dire que ceux qui collectent, ils sont payés au sac. Celles qui lavent, elles sont aussi payées au sac qu'à la quantité. Celles qui tissent, elles sont payées au mètre. Donc, c'est vraiment à la tâche.
D'accord. Et elles viennent quand elles ont besoin d'argent.
Voilà, exactement. Donc, il y a une centaine de femmes qui se partagent ces différentes tâches.
C'est rémunérateur?
C'est rémunérateur, je crois qu'elles sont vraiment intéressées, mais il faut des clients.
Alors précisément, les clients, on entendait Madame Lamizana Gouba dire pas de commande, pas de salaire en quelque sorte. Hein. Ça veut dire quoi? C'est que la marchandise qui est fabriquée, les produits qui sont fabriqués, sont écoulés comment? Sur les marchés locaux et sur commande?
Alors ils sont exactement sur les marchés locaux et sur commande, mais sur les marchés locaux, la problématique c'est qu'ils se situent entre, on va dire, 10 et 20 euros le sac, ce qui est relativement cher pour des Burkinabés, surtout qu'ils entrent directement en concurrence avec les sacs issus de la friperie. La friperie, c'est ces sacs hein, qu'on envoie ici en Europe quand on n'en a plus l'usage, qui sont envoyés par container en Afrique et qui sont très bon marché sur les marchés burkinabés.
Et ces sacs, vous nous en avez amené un exemplaire, j'en ai un dans les mains, celui-là il ne fait pas de bruit hein, comme le sac plastique tout à l'heure, ce sont de très jolis sacs. Alors il y a plusieurs modèles, des grands, des petits, c'est ça qui est vendu l'équivalent de 20 euros. L'idéal, Isabelle Chevalet, c'est de pouvoir écouler cette marchandise fabriquée au Burkina et l'écouler également ici en Suisse.
Oui, parce que ces sacs ont été faits sur des modèles européens, donc c'est des sacs qui plaisent aux femmes. Ces femmes là-bas, elles sont malines, elles ont copié des modèles européens et donc c'est des sacs tout à fait chouettes. Et puis on n'a pas du tout l'impression qu'ils sont faits en sac plastique. Et si on veut que ces femmes continuent leur activité, eh bien évidemment, il faut qu'il y ait un écoulement de ces sacs. Et je suis persuadée que ça va intéresser ici des Suisses. Donc si quelqu'un entend mon appel, eh bien on serait tout à fait disposé, prenez contact avec moi et puis on peut trouver une solution.
Voilà, alors on mettra en lien sur le site de Prise de Terre votre contact, Isabelle Chevalet, ainsi que les photos des modèles de ces sacs. Isabelle Chevalet, merci beaucoup de nous avoir proposé ces quatre carnets verts au Burkina Faso. Peut-être prochainement une autre destination.
Oui, j'avoue ici à l'antenne que je vais partir aux îles Comores au mois de juillet parce que m'accompagnait au Burkina Faso un ami, Mohamed Saïd Hassani, qui est chef de projet de gestion des déchets aux Comores. Et ça permettra, j'espère, de vous proposer d'autres carnets verts, qui sait.
Voilà, et pourquoi pas, en effet. Alors, notre site internet, notre page internet, prisedeterre.rsr.ch, vous y trouverez tous les liens nécessaires concernant les informations sur ces sacs et ces, comment on appelle ça, ces objets de mode qui sont transformés à partir de sacs plastiques par ces femmes burkinabées. Voilà, Prise de Terre, ça sera tout pour aujourd'hui. Merci à tous ceux qui ont participé à cette émission. Je pense à Nathalie Schauenberg qui a signé la programmation musicale, Carmen Algarada qui a signé, elle, la réalisation. Stéphanie Gauthier, assistante de production, puis Bruno Seriba est en régie ce matin. La semaine prochaine, nous parlerons d'oiseaux, puis nous parlerons également de dauphins. Vous avez peut-être entendu parler de la mort un peu suspecte de ces dauphins dans un delphinarium de Turkovie. Nous y reviendrons donc la semaine prochaine dans Prise de Terre. Et puis dans quelques instants, là tout de suite maintenant, vous avez rendez-vous avec Véronique Marty. Et on reste dans les poubelles ce matin, Véronique.
On en fait la tournée ce matin, puisque nous allons faire la rencontre de Sébastien Rey, qui est éboueur à la ville de Lausanne, éboueur, un vrai travail de Sisyphe, comme dit le sociologue Stéphane Lelay, que nous recevrons aussi dans l'émission, puisque c'est un travail qui recommence tout le temps et puis qui a la particularité d'être bien quand on ne le voit pas. Parce que si on voit les poubelles, c'est que le travail n'a pas été bien fait.
Zone Franche, c'est dans quelques instants. Je vous souhaite un excellent week-end, une excellente semaine. Radio Suisse Romande, la première, il est 10h.